Radio Okapi. Grande interview.
Situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, signature de l'accord de paix entre le gouvernement congolais et le groupe armé FRPI, relations entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Nous en parlons dans une grande interview avec Ibrahim Outirchan Boulé. Il est ministre provincial près le gouverneur et ministre des infrastructures et travaux publics. Coordination et réalisation Kelly Nkouté, mise en onde Mimi Kindou, présentation Isaac Remoyope. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Monsieur le ministre des ITPR, bonjour.
Bonjour.
À ce jour, quel état des lieux vous pouvez dresser sur la situation sécuritaire en Ituri?
Merci Isaac pour cette invitation, pour l'occasion que vous me donnez de témoigner sur la situation générale de la province de l'Ituri, que nous avons eu à diriger pendant près de 3 mois d'intérim, cela à l'absence des autorités de l'exécutif provincial. À ce jour, il faut dire que la situation sécuritaire de la province de l'Ituri est pour le moins que l'on puisse dire très inquiétante, très préoccupante. Du fait que à partir de novembre, il y a eu la détérioration progressive jusqu'à ce jour de cette situation, notamment à partir de Djougou, Irumu et Mambasa particulièrement, mais aussi en partie le territoire de Magui qui a connu des atrocités il y a quelques semaines.
Pour parler d'abord du territoire de Djougou, qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis plus d'une année, il y a les groupes armés qu'on appelle CODECO qui sèment la terreur dans la zone. Comment vous décrivez la situation?
Présentement, la situation est plus ou moins stable, mais avec des zones pratiquement fragiles. Et les groupes CODECO continuent ses attaques. Et c'est un groupe qui est devenu très hostile. Ils mènent des attaques aussi bien sur les positions des forces armées de la République que en direction de la population. Et donc, cette situation est prise en charge par l'armée, mais que nous pensons qu'il y a quand même du travail à faire par rapport au développement de la situation à ce jour. La partie de Walendo-Piti où la présence des assaillants se manifeste de plus en plus, ils sont errants dans cette zone-là. Et puis, les secteurs de Djati également, qui a été finalement affecté par la suite. Puis, le littoral qui prend la partie de Bayema Banyuagi et de Walendo-Piti également. Il faut dire que les assaillants ont tenté de tendre la main et le gouvernement provincial avait bien accueilli cette main tendue et un petit regroupement avait commencé dans la périphérie de Kwandroma, notamment à Réti. Et malheureusement, il y a les groupes qui sont réfractaires à ce processus, qui sont venus les disperser et ça fait que présentement, les miliciens, ils tournent un peu dans tous les sens dans les territoires de Djougou, mais les forces armées de la République contiennent la situation et il y a des attaques isolées. Ça est là, mais la situation n'est pas si alarmante à ce qui concerne les attaques, parce que ces attaques sont contenues. Ce que nous déplorons, ce sont des incursions ou des attaques contre la population dans les zones plus ou moins isolées. La dernière attaque qui inquiète davantage, c'est celle qui date de quelques heures à Fataki. Et je pense que la situation a été très rapidement rétablie, mais elle reste très fragile.
Quelles sont les conséquences de l'insécurité en territoire de Djougou? Parce qu'on signale des milliers de déplacés dans la zone.
Nous sommes à ce jour dans l'ensemble à plus d'un million de déplacés internes. Et la situation humanitaire est catastrophique, comme vous le savez. Et il y a la destruction des infrastructures, n'est-ce pas, sociales de base. Et ces attaques ont causé la faible production agricole avec la pénurie des produits alimentaires sur les marchés. Donc sur les plans économiques, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a hausse des prix sur les marchés et avec le pouvoir d'achat de la population qui est déjà faible. Donc c'est tout aussi automatique et cela a une incidence sur la vie quotidienne de la population. Donc je crois que les conséquences de cette situation sont notamment que les activités ou les projets de développement ne peuvent pas être développés, implémentés dans ces territoires. Et c'est ce que nous déplorons et nous n'avons cessé, à travers l'autorité provinciale, Excellence Jaba Manissa, d'en appeler à la paix, à la désolidarisation de la population vis-à-vis des assaillants, mais aussi inviter les assaillants à déposer les armes, à revenir au bon sentiment, pour qu'ensemble nous puissions démarrer le développement de cette province à travers les différents projets qu'on peut y amener.
Il y a cet appel que vous lancez à la population à se désolidariser des groupes armés, mais quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour mettre fin au calvaire de la population?
Le gouvernement et surtout les front. Le gouvernement a organisé des consultations, le gouvernement a organisé des dialogues intracommunautaires, le gouvernement est sur la voie d'organiser des dialogues intercommunautaires, le gouvernement a déployé l'armée dans les territoires de Djougou en nombre important et que bien avant novembre 2019, l'armée avait réussi à déstabiliser complètement ce groupe, mais que avec l'extension des conflits dans le Sud Kivu, dans les territoires de Minembwe, l'intensification des opérations contre les ADF à Beni, cela a fait qu'il y a eu une sorte de désarticulation des dispositifs de l'armée. Et comme vous le savez, le territoire de Mambasa a connu des problèmes avec la prolifération des Maïmaï, des groupes armés. Et cela a essayé d'avoir une incidence sur les dispositifs qui étaient déjà mis en place à Djougou. Et présentement, on est en train de travailler sur le redéploiement dans les zones qui sont libérées par l'armée pour que ces zones soient sécurisées par nos forces, c'est-à-dire par la présence de nos forces, de nos positions. Et donc, je crois que ce travail qui connaîtra son parachèvement incessamment pourra donner des résultats sur le plan militaire. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas que les volets militaires. Donc, dans les cadres politiques, nous maintenons toujours les contacts avec les groupes qui s'ouvrent à travers des comités de suivi qui ont été mis en place après les dialogues intracommunautaires, à travers les groupes de sensibilisateurs qui sont venus de l'état-major général de Kinshasa. Et donc, ces réseaux nous permettent de temps à temps d'avoir des informations qui nous permettent de renforcer les dynamiques communautaires et sociales afin de rencontrer, n'est-ce pas, cette question qui n'a que trop duré et la souffrance, elle est profonde.
Donc, c'est que le processus de paix engagé avec les groupes armés Codeco ne constitue pas un échec jusque-là?
Je peux dire que jusque-là, ce processus de paix est un processus de paix qui n'a pas été formalisé, mais la volonté manifeste du gouvernement provincial, appuyé en partie par le gouvernement central, était manifestée. Mais pendant ce temps que le gouvernement était en train de travailler sur ce volet, les groupes Codeco a repris les hostilités et ce qui a mis à mal ce processus. Et à ce jour, il faut dire que ce processus connaît un ralentissement, s'il faut le dire, du fait que le groupe qui a été regroupé à Réti a été dispersé et aujourd'hui ces éléments sont errants à travers différentes agglomérations. Et vous avez suivi, les dernières semaines ont été caractérisées par des trafics coupés sur la RN27 parce que ces groupes sont passés, soit à Réti. On a attaqué la localité de Nyoka en territoire de Mahagi, Damé et à l'intérieur de Djougou. Et donc ça, c'est la manifestation probablement d'un processus qui connaît un peu de difficultés à démarrer de manière efficace.
Toujours dans le cadre de la sécurité, et cette fois-ci en territoire d'Irum, il y a un nouveau groupe armé qu'on appelle FPIC, donc Force Patriotique Intégrationniste du Congo, qui est encore aussi actif. Comment vous établissez la situation de ces groupes armés?
Comme vous le savez, les groupes armés ou ces groupes qui se constituent, qui commencent à prendre forme et deviennent de plus en plus nuisible. C'est un groupe au départ appelé Tinia Kilima. Et Tinia Kilima, ce n'est qu'il y a deux semaines environ ou un peu plus qu'ils ont laissé des tracts ça et là pour se renommer FPIC. Donc, Force Patriotique Intégrationniste du Congo, quelque chose comme ça. Je crois que ce groupe, on ne connaît pas très bien aussi ses revendications. Mais nous pensons que la réponse des frustrations communautaires ne résulte nullement dans une sorte de création de groupes armés. Et à ce jour, qu'il s'agisse des groupes Chiniakilima ou FPIC, qu'il s'agisse du groupe Codeco, en tout cas, il n'y a pas de revendication claire. Même dans les processus qui a été enclenché pour tenter de les amener à déposer les armes, en tout cas, il n'y a jamais eu une formulation claire des revendications. Tout simplement, nous voulons devenir aussi comme vous. Je veux préciser que devenir comme vous, c'est devenir comme les militaires des forces armées de la République. Et donc, fondamentalement, jusque-là, il n'y a pas de revendications affichées, exprimées, et c'est toute la difficulté de conduire un processus de paix sur base d'une approche politique ou sociopolitique. Donc, nous pensons que les dispositifs de l'armée demeurent et que si un groupe a des revendications claires à soumettre au gouvernement, bien entendu, nous allons recevoir, le gouvernement recevra ces revendications et examinera la pertinence et la profondeur ou les fondements de ces revendications et pour prendre une position quelconque.
Le fait qu'il y a de nouveaux groupes armés qui naissent, c'est le signe palpable de la faiblesse de l'autorité de l'État.
Dire que les problèmes d'autorité de l'État se posent à la République démocratique du Congo, ce n'est pas de nouveauté, ce n'est pas de la recherche scientifique. Donc les programmes du gouvernement central et les programmes du gouvernement provincial reprennent tous, n'est-ce pas, des axes rétablissement ou restauration de l'autorité de l'État. Cela suppose que le diagnostic a été posé, que les problèmes de l'autorité de l'État se posent à certains endroits à travers la République, notamment à la province de l'Ituri, mais qu'il y a tous les piliers qui concernent la restauration de l'autorité de l'État, il y a des projets concrets qui concernent la restauration de l'autorité de l'État. On ne va pas oublier ici que dans la démarche de la restauration de l'autorité de l'État et de la restauration de la sécurisation de la population, il a plu au chef de l'État, par exemple, de créer un état-major avancé à Beni. Et donc, c'est justement parce que à ce niveau-là, il se pose un problème d'autorité de l'État. Nous reconnaissons qu'il y a un problème d'autorité de l'État, mais que il y a toute une dynamique, tout un processus pour pouvoir arriver à rétablir l'autorité de l'État. Donc, mais les phénomènes groupes armés ne commencent pas aujourd'hui. Ça date d'une certaine époque, d'une certaine décennie, et que à travers ces épisodes, il y a eu des naissances, des transformations des mêmes groupes pour se revêtir, qui se déguisent et prennent d'autres dénominations. Et donc, c'est ça le problème du Congo. Je crois qu'il faut dire que le processus DDRRR qu'on a connu à travers les pays et constitue aussi en partie et des problèmes parce que à certains égards ils n'ont pas bien réussi, mais il y a des petites frustrations internes, des problèmes qu'on aurait dû régler entre communautés, entre groupes sociaux, mais qui finalement avec nos frontières qui sont béantes, avec les mouvements des la circulation des armes dans tous les sens, les gens ont la facilité d'accéder aux armes et de constituer des groupes qui deviennent des groupes armés finalement.
Et il y a aussi l'insécurité en territoire de Mambasa et avec la présence des ADF signalés notamment aussi du territoire du Rumu vers Nalia. On a signalé des cas d'attaque, mais il y a aussi des attaques un peu plus fréquentes, récurrentes en territoire de Mambasa. Qu'est-ce qui justifie l'extension des ADF en Ituri donc?
Donc d'abord, avant d'en arriver à Mambasa, il faut souligner qu'il y avait un autre groupe par le passé, il y a quelques mois ou quelques deux ans, un groupe qui était aussi à l'origine de l'insécurité en territoire d'Irumu, c'est le groupe RFIPI. C'est le lié ici de se féliciter et de féliciter le chef de l'État pour son engagement en faveur de la pacification de Irumu.
Donc à ce sujet-là, nous savons qu'il y a une délégation qui est venue à
merci.
Et qui est venue à Bounia. Pour, est-ce qu'on peut connaître l'objet de, parce qu'il y a le vice-premier ministre qui séjourne déjà à Bounia, on peut connaître l'objet de sa visite?
Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières est sur place depuis 17h. Et donc, sa mission principalement, c'est parachever le processus de paix par la signature de l'accord entre la FRPI et le gouvernement. Et donc, nous pensons que ce processus, dans quelques heures, connaîtra, n'est-ce pas, son point le plus culminant, qui était la signature de l'accord. Donc, le ministre de la Défense est attendu demain. Et donc, déjà le matin, je crois qu'avec l'équipe de la Radio Capi, nous allons prendre route pour Getty où se fera cette cérémonie.
Toujours à ce qui concerne la situation des FRPI, est-ce merci. Qu'à ce jour, on peut dire que le cahier des charges de ces groupes armés est respecté?
Non, les dialogues ou les discussions ont été menées de bout en bout. et que les cahiers de charges de la FRPI ont été rencontrés dans une grande marge. On a discuté de tous les aspects et il y a des aspects qui exigent que l'accord soit signé pour que finalement on passe à l'autre étape. Donc, c'est plutôt une réussite pour ce processus.
Dans les revendications, ils demandent notamment l'octroi des grades, l'amnistie, mais aussi la libération de certains prisonniers. Est-ce que toutes ces revendications ont trouvé des satisfactions?
Oui, il y a eu des formulations qui tiennent compte en même temps de l'impératif de la loi, en même temps de l'impératif de la paix, et qu'on s'est mis d'accord sur une formulation qui permette à ce qu'effectivement on travaille sur les grands axes de revendication. Il y a la libération des prisonniers, on a retenu les prisonniers emblématiques et les personnalités de la FRPI, l'avancement à grade qui a été examiné par la FRPI, par les officiers de l'armée et les commandements de la FRPI. Donc je crois que sur le plan conceptuel et opérationnel, en tout cas, les partis se sont mis d'accord. Et cela a été discuté à Kinshasa. Et donc, aujourd'hui, si une délégation gouvernementale arrive, il faut dire que, en tout cas, le cahier des charges a été rencontré dans une bonne mesure. Nous avons foi que demain, ça sera le bon jour pour l'Ituri, le bon jour pour le Congo, le bon jour pour le territoire d'Irumu et le bon jour pour la chefferie de Walendo-Bindi.
Et qu'est-ce qui va suivre après la signature de l'accord de paix?
Après la signature de l'accord de paix, c'est le cantonnement. C'est le cantonnement, c'est là où va maintenant commencer le processus de DDRRR et qui permettra à ceux qui choisiront la voie de l'armée soient conduits vers ce chemin-là. Il y en a qui vont choisir peut-être la police, il y en a qui vont choisir la vie civile. Et donc, c'est ça le processus dans lequel on va amorcer, mais il y a des étapes. On arrive là à passer par des étapes de vérification, de l'âge, ainsi de suite. Et vraiment, c'est un processus encore à suivre.
Et vous ne pensez pas que le fait que le gouvernement puisse négocier avec les FRPI a un effet d'entraînement et que d'autres groupes armés veulent aussi emboîter les pas et on craint que des nouveaux groupes armés puissent encore naître pour suivre le même processus?
Non, je crois qu'il ne faut pas que les gens tombent. Les FRPI a fait beaucoup d'années, plus de 10 ans. Donc on parle même, les FRPI c'est environ depuis 2002, 2003, des choses comme ça. Et aujourd'hui nous sommes à 2020, donc soit 18 ans. Donc, il ne faut pas qu'on s'amuse à dire que non, parce qu'on a discuté avec tel groupe. Donc, nous aussi, nous allons créer des groupes, parce que notre armée est là aussi pour travailler, pour la sécurisation. Je n'ai pas de garantie que les autres groupes puissent tabler sur les mêmes opportunités, parce que les moments ont changé, les circonstances ont changé aussi.
Alors, revenons en territoire de Mambasa. Qu'est-ce qui justifie l'extension des rebelles ADF en Ituri, parce que leur présence était signalée jusque-là dans la province du Nord Kivu?
Oui, les ADF, c'est un groupe qui a opéré pendant longtemps au Nord Kivu. Et ici, il faut déjà dire qu'au mois de mai passé, de l'année passée j'allais dire, il y a eu incursion des ADF dans la chefferie de Tchabi, toujours en territoire d'Irumu. Et depuis lors, on n'avait pas connu leur présence dans la province de l'Ituri. Alors, lorsqu'on a intensifié les opérations, on a avancé, on a créé un état-major avancé à Beni, la pression exercée sur les ADF, nous pensons que c'est cela qui les a poussé à forcer un passage vers l'Ituri. Il faut reconnaître l'effort qui a été fait au niveau de la planification militaire, qu'il a été créé un axe opérationnel et qui prenait Mambasa, le territoire de Mambasa, Komanda, Tchabi, Luna, jusqu'à Bourassi. Et cet axe était créé justement pour contenir, n'est-ce pas, l'éventuelle incursion des ADF ou l'éventuelle entrée des ADF sur le territoire de la province de l'Ituri.
Mais cela n'a pas réussi parce que justement, on a
connu. Et justement, toute œuvre humaine peut connaître des problèmes. Aujourd'hui, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'évaluer les dispositifs qui étaient mis en place et de corriger ce qui a corrigé ou de renforcer là où il y a à renforcer. Alors, deuxièmement, il faut dire que les groupes armés qui opéraient jadis dans le Nord Kivu, sous pression et sous prétexte de résister à la riposte Ebola, se sont infiltrés en Ituri, à travers la forêt. Il faut dire que la 31e brigade travaille là-dessus et la situation est regrettable, mais Et elle est quand même sous contrôle à ce jour. Il y a presque 2 semaines, on n'a pas connu la récurrence des attaques. Mais avant-hier, on a suivi qu'il y avait eu la présence des ADF dans une localité, toujours autour de Luemba, dans la chefferie de Babilaba Bombi. Je crois que avec la présence attendu demain du ministre de la Défense, toutes ces questions pourront trouver des réponses absolument en termes de renforcement des dispositifs de l'armée en effectif, parce que il faut, lorsque nos militaires interviennent, il faut qu'il y ait un autre groupe qui occupe l'étendue où on a évacué les ennemis.
Alors parlons de la politique maintenant. Il y a eu une relation tendue entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'à ce jour, cette relation est au beau fixe?
Oui, effectivement, depuis le 20 novembre et déjà un peu bien avant, la relation entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial était sincèrement tumultueuse, et ce qui a mené au vote de la motion de défiance. Ok, nous n'allons pas faire l'apologie du passé ou du mal. Pour ma part, je pense que toutes les institutions politiques sont sujettes, n'est-ce pas, à des conflits ou à des turbulences politiques. Et cela étant, et toutes choses égales par ailleurs, je crois que la province de l'Ituri a connu cet épisode et désormais pour nous, nous considérons cela comme un incident de parcours. Nous sommes en train de travailler pour la cohésion et pour la cohabitation, la collaboration entre les deux institutions qui sont les deux institutions politiques de la province de l'Ituri. Et donc, toute instabilité ou tout conflit entre ces deux institutions ont une incidence directe sur la population, parce que vous êtes sans ignorer que ce qui s'est passé a eu des conséquences assez graves sur la province de l'Ituri.
Lesquelles, par exemple?
Les conséquences, notamment la situation de la sécurité s'est détériorée davantage depuis cette crise. Et jusqu'à novembre, il faut dire que la situation à Djougou s'est stabilisée avec la présence de son Excellence Monsieur le Gouverneur, mais que cette situation est venue, n'est-ce pas, porter atteinte, un coup dur à la dynamique qui était déjà mise en place, et nous avons vu la situation se dégrader davantage. Nous avons fait un effort de maintenir la situation, d'apaiser la tension politique. C'est tout le travail que nous avons fait pendant plus ou moins 3 mois, et à ce jour, il faut dire qu'on est très avancé. Les extrémistes ne manquent pas, mais on a très avancé dans l'effort de rapprochement entre les uns et les autres. Et je crois que ce travail doit se poursuivre et l'exécutif provincial, dirigé par son Excellence Bamanissa, est ouvert. Et désormais, nous allons fonctionner sur base des dialogues, d'échanges, et nous pensons que les uns et les autres devraient revenir au bon sentiment pour offrir à la population itourienne le développement, le décollage que la population a.
Nous avons vu le gouverneur qui est revenu aujourd'hui à Bounia et aussi le président de l'Assemblée. Est-ce que vous avez essayé un peu de déceler les causes de ces conflits pour que vous puissiez bâtir un avenir meilleur?
Les causes de conflits
entre les deux institutions.
Je crois qu'on on a accusé l'exécutif de ne pas suffisamment collaborer avec l'Assemblée provinciale. Moi, je crois que je ne reviens pas sur la motion, parce que la motion, la Cour constitutionnelle
a déjà tranché,
ça n'appelle pas un nouveau débat. Sinon, ce serait une façon de remuer encore dans la plaie. Mais nous constatons que du côté de l'Assemblée provinciale, il a été dit que le gouvernement provincial ou le gouverneur ne collabore pas suffisamment avec l'Assemblée provinciale. Et donc, sur base de cette évidence, nous avons pris nos responsabilités, mais que ici, je dois plutôt inviter les uns et les autres à ne pas tomber dans l'extrémisme, parce que l'extrémisme n'est pas du monde politique. Le monde politique entre les institutions, il peut y avoir des problèmes, mais cela ne devrait pas être transformé à des problèmes interpersonnels, et les problèmes interpersonnels, on connaît leurs issues. C'est la haine, et c'est la méfiance, et voilà. Et je pense qu'une pareille pratique, si elle s'installait au sein de la classe politique itourienne, ce serait le plus grand danger qui menacerait le développement de la province. Et donc, nous invitons tous les opérateurs politiques à à considérer que tout cheminement politique est émaillé et des conflits ou des conflits d'intérêts, des pouvoirs, de ceci, mais que tout cela se règle dans le cadre des institutions et non dans le cadre communautaire ou interpersonnel.
Mais on a, toujours dans ce conflit-là, on accuse plutôt le gouvernement provincial de mégestion. Est-ce que cette hypothèse-là...
La mégestion n'est pas établie, la Cour constitutionnelle l'a dit. La mégestion, elle est établie lorsqu'il y a des évidences. Et donc, la présomption ne constitue pas une évidence, malheureusement, en cette matière-là. Et je crois, par contre, que c'était plus le problème des collaborations. Moi, je crois que c'est... Tous, nous étions dans une certaine émotion et ça nous a conduit à la colère. Et la colère a abouti là où elle a abouti, mais je disais qu'on ne revient pas sur toutes ces choses-là. Oui, la gestion, elle ne peut pas peut-être être tout aussi saine comme on le souhaiterait, mais que cela nous amène directement à décider des sanctions sans vraiment des évidences. Je crois que cette étape constitue également une expérience pour la classe politique. Donc, pour nous, nous capitalisons cela comme une expérience de part et d'autre qui devra nous aider à tracer un nouveau chemin, un nouveau départ.
Que nous avons vu aujourd'hui l'ambiance à l'aéroport, ce qui semble qu'il y a encore toujours cette méfiance. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir?
Ok, je suis confiant pour l'avenir. Ceux qui tomberont dans l'extrémisme ou dans la haine ne s'apprendront qu'à eux-mêmes, parce que c'est pas ça la politique. Donc, moi, je suis politique et moi, j'ai fait l'opposition avant que les autres ne le fassent. Jamais je n'ai eu la haine contre un quelconque gouverneur, contre un quelconque ministre. Et donc, j'invite les uns et les autres de sortir des sentiments de haine et de revenir à la considération politique et institutionnelle de la chose. Je crois que si on a cette lecture ou cette perception de la chose, de la vie politique, c'est facile de régler nos problèmes. Le danger, c'est que justement, je le répète, qu'on tombe dans les considérations interpersonnelles, de la haine, voilà, de la démonstration de force, et ce qui n'est pas du monde politique.
Alors aujourd'hui, nous avons vu la population de l'Ituri ou de la ville de Bougna vraiment très contente de voir les autorités revenir pour reprendre leurs fonctions. Il y a vraiment un sentiment d'espoir. Vous ne pensez pas que cet espoir risque d'être déçu?
Voilà, il faut justement que la classe politique comprenne cela. La population itourienne a fait beaucoup d'années, attendait des projets réalistes et réalisables. La population itourienne attendait un dirigeant qui soit en mesure d'imposer une ligne de conduite. La population itourienne attendait quelqu'un qui a une vision et qui a des ambitions, qu'il s'est transformé en projet. Ce n'était jamais venu. C'est arrivé avec Bamanissa, mais que dans les parcours, il y a eu ces problèmes. Les problèmes, il y en a toujours. Maintenant, l'engouement qu'il y a eu, l'accueil a été réservé à toute la délégation, au gouverneur Bamanissa, avec la délégation de Kinshasa, avec le président de l'Assemblée provinciale. Le gouverneur a fait la démonstration de la hauteur de l'homme politique. Il s'est agenouillé devant un public fou pour dire « Je vous demande pardon pour ce que nous, classe politique, avons fait, mais également je demande pardon à l'Assemblée provinciale et que nous devons désormais collaborer et repartir sur de nouvelles bases. » Mais que, par-dessus tout, c'est l'intérêt de la population qui doit nous guider. C'est le projet de développement. Nos différends, nous sommes en mesure de les régler autrement. Nos différends, nous sommes en mesure de les porter, de discuter, de nous dire les choses franchement. Je plaide pour que la population ne soit pas déçue, justement. J'ai coulé les larmes aujourd'hui lorsque le gouverneur s'est agenouillé devant un public fou qui l'accueillait dans la joie. Mais il a demandé aussi à la population de pardonner la classe politique et que ce qui est passé est passé. Nous devons repartir sur de nouvelles bases, comme je l'ai déjà dit.
Merci le ministre des ITPR. Nous vous remercions beaucoup.
Merci beaucoup.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Zachary Moyopé a reçu pour vous le ministre provincial de l'Ituri, près le gouverneur et ministre des infrastructures et travaux publics. Merci à Mimi Kindou qui était à la mise en onde, réalisation et coordination, Kelly Ngouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.